Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons lire Philippiens chapitre 4, verset 10. Je ne doute pas que ce soit un texte que vous connaissez très bien, mais je pense qu'il est bien quelquefois bon d'y revenir. Voilà ce que Paul nous laisse. Il nous dit ceci: « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, et j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette parole. Je ne sais pas si ça peut convenir à tout le monde, mais toujours est-il que Paul nous dit « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. » Alors c'est tout un programme, hein, parce qu'il y a des états dans lesquels on n'est pas forcément très à l'aise. Paul, dirons-nous, est un croyant positif. Eh oui. Il a quelque chose à l'intérieur de lui-même qui enverrait contre tout, malgré tout ce qu'il a pu connaître, et on sait que c'est un homme qui a probablement énormément souffert, et il reste, dans toutes les circonstances, positif. À vrai dire, des propos tenus dans des circonstances où tout allait mal pour lui, hein. Et c'est justement ce qui donne beaucoup plus de relief et de force au message qu'il nous laisse et que nous allons méditer ce matin. D'abord, il est emprisonné à Rome. Il parle de liens et de prétoires dans son épître. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis le deuxième point qui semble tellement négatif pour lui, parce qu'il était naturellement seul en prison, eh bien c'est l'envoi d'Épaphrodite, nous dit cette parole, pour l'assister et le servir dans sa captivité. Il y avait un frère qui était là auprès de lui, normalement qui devait venir auprès de lui pour le seconder, l'encourager. Hélas, l'Écriture sainte nous dit qu'Épaphrodite va tomber malade gravement et Paul écrira ces lignes dans Philippiens, dans la même épître au chapitre 2 au verset 27, il dira « Il a été gravement malade et près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. » Voilà. Emprisonné, il devait recevoir son ami. Et finalement, son ami tombe gravement malade. Et on peut imaginer les inquiétudes de l'apôtre Paul en pensant finalement à Épaphrodite. Et lui va rester naturellement en réclusion. Privation de la liberté, c'est quelque chose. Et ensuite, solitude. Une grande solitude. Surtout qu'il est en prison, mais il ne sait vraiment pas pourquoi. Il y a des gens qui sont en prison, mais ils savent pourquoi. Ils vont peut-être pas dire pourquoi, mais en tous les cas, ils savent pourquoi ils sont là. Mais lui, il était en prison parce qu'il avait été accusé injustement, naturellement, vous connaissez l'histoire. Pourtant, Paul trouve le moyen d'offrir sa vie en exemple aux autres. Ça, c'est plus que de la positivité, puisqu'il va exhorter les autres à dire, eh bien voilà, dans Philippiens chapitre 3 verset 17, il dira « Soyez mes imitateurs, non pas en venant en prison comme je le suis, mais en tous les cas, soyez mes imitateurs de vivre ce que je vis avec la force que Dieu me donne. » Soyez mes imitateurs. Et un peu plus loin, toujours dans cette épître aux Éphésiens, il dira « Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le !» Et ça, c'est de l'Évangile. L'Évangile, c'est pas de la théologie ou de la théorie, où on dit beaucoup de choses, et finalement, eh bien là, il n'y a rien derrière. On pourrait parler de son positivisme, sa détention, loin d'arrêter son activité, trouve à ce moment-là de nouvelles dimensions, à commencer par la prison. Nous avons justement le compte-rendu de ce qui se passe en prison avec Paul, ou Paul quand il est en prison. Écoutez bien, dans Philippiens chapitre 1er, il dit ceci, « Je veux que vous sachiez, frères, écrit-il, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Vous voyez comme quoi, on va en parler ce matin, mais comme quoi il y a des situations dans la vie. On se dit, mais Seigneur, pourquoi ? On ne comprend pas toujours, mais... Eh bien, lui, il voit une chose, que ça va contribuer au progrès de l'Évangile. Et il ajoute, « En effet, dans tout le prétoire, tribunal, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Vous rendez compte la publicité qu'il a fait ? Il a dit pourquoi il était là. Il était là parce qu'il croyait finalement en Jésus-Christ et il souffrait pour Jésus-Christ. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes chaînes, par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. C'est formidable une chose pareille, vous rendez compte ? Ça ne l'a pas arrêté, au contraire, ça l'a stimulé. Mais malheureusement, on voit peut-être le cas contraire beaucoup plus souvent. Hein ? Hélas, nous pouvons dire. Alors, le service... Je voudrais le dire, ne s'arrête pas dans les épreuves, frères et sœurs. Ça, c'est à rappeler. Nous sommes l'Église militante et combattante, non pas encore l'Église triomphante. Elle viendra. Mais pour l'instant, Dieu nous a placés sur la terre pour que nous puissions, eh bien, servir le Seigneur. Si nous comptons les petits malaises et les petites difficultés que nous avons dans notre vie, nous ne ferons jamais rien. Vous savez, c'est pas toujours facile quand vous avez à rendre témoignage. C'est pas toujours facile lorsque vous devez faire ceci et cela pour l'œuvre de Dieu et que vous vous sentez un petit peu fatigué, étourdi, vertigineux, enfin toutes sortes de choses comme ça. Hein. Et pourtant, nous voyons que le service ne va pas s'arrêter là parce que Paul a des épreuves. Et il a un moral communicatif, l'apôtre. Parce qu'en dépit de sa solitude, de sa détresse personnelle, que nous pouvons imaginer, son épître s'impose par son caractère à tenir ferme. Envers et contre tout, il veut tenir ferme. Il a une foi, il démontre une foi d'une grande résistance. Mais en plus de cela, eh bien, il ne se départit pas, de sa joie qui est une joie permanente. Vous vous souvenez que quand il se retrouve à Philippe, dans la prison, il chante des cantiques avec Silas. Quand on a été flagellé, quand on a été humilié au point où il a été martyrisé, dirons-nous, on n'a pas forcément envie de chanter des cantiques. On pense à nos blessures et à ce qui nous est arrivé. Mais pourtant, eh bien là, sa joie est rayonnante, envers et contre tout. Et ce n'est pas pour rien que 26 fois le mot joie revient dans cette petite épître qui n'a que 4 chapitres, 26 fois. Et pourtant, c'est là où nous voyons que nous rencontrons Paul au plus brûlant de sa vie, de ses épreuves. Dans la tourmente, Paul entrevoit que ce qui lui arrive a un sens positif. Et il s'en réjouit, il parle de ses propres progrès personnels, et puis il parle des progrès de l'Évangile. Paul vit le temps présent en pénétrant le sens de ce qu'il vit. Et il n'est pas passif dans sa foi. Combien de fois nous sommes par terre, nous disons « Seigneur, arrête, j'en peux plus. Seigneur, retire un petit peu ta main, retire un petit peu les choses, parce que moi, je ne suffis plus à tout cela. » Mais lui, eh bien, il voit les choses comme Dieu les voit. Et vous savez que ce n'est pas seulement l'histoire de Paul que je vous raconte, mes pensées à Joseph. Pensez à Moïse, pensez à ces grands hommes qui ont traversé l'histoire et qui nous laissent finalement la démonstration et le témoignage d'une foi extraordinaire. Et au lieu de s'apesantir sur lui-même, il puise, nous dit la parole que nous avons lue tout à l'heure, il puise dans le Seigneur la force de surmonter tous les traits communs à la majorité des hommes dans l'épreuve. Et on va en parler quelques instants. Les traits communs, ce qui nous caractérise lorsque nous sommes dans l'épreuve les uns et les autres. Une épreuve physique, une épreuve affective, une épreuve sentimentale, une épreuve morale, une épreuve psychologique, une épreuve spirituelle. Alors quels sont ces traits communs? C'est l'irritation. Parce que c'est vrai que quand on souffre, eh bien, quelquefois, les choses sont plus difficiles naturellement. Il y a une parole dans le livre de Job qui nous dit « Garde-toi de te livrer au mal parce que la souffrance t'y prédispose. » Vous avez tous fait l'essai quand vous avez mal aux dents ou mal à la tête ou que faut peut-être pas trop quelquefois vous déranger ou nous déranger. Hein, mais ça fait partie de la nature humaine. Ça, c'est l'irritation. Il y a l'impatience aussi. Ça, c'est un trait commun de l'homme dans l'épreuve. Il y a la jalousie. Pourquoi moi je souffre et l'autre il est bien portant? Pourquoi moi je n'ai pas et lui il a? Donc la jalousie. Il y a le ressentiment qui est là au fond de notre cœur et quelquefois ça va jusqu'à la haine. Il peut y avoir le découragement naturellement. Il peut y avoir la peur de la mort alors que nous avons des promesses. Et au sein des épreuves, eh bien Dieu nous dit « Mais je suis avec toi, tu ne crains rien ». Il y a la dépendance passive des événements en disant, une sorte de fatalisme religieux en disant, bah, puisque c'est ainsi, je me résigne. C'est pas bon non plus. Il y a certainement une autre attitude à avoir, vraisemblablement. Alors, on comprend que Paul ne se laisse pas enfermer dans le dilemme de la souffrance. Souvent, ce dilemme de la souffrance pousse les gens à tomber dans la négativité, dans la morosité, dans l'agitation et dans le doute. Seigneur, tu m'abandonnes. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourtant, tu m'as appelé. Je ne doute pas de ton appel, mais maintenant, pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi tu ne réponds pas? Alors, ça, ce sont des choses, des traits communs, comme nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien, lorsque nous sommes mal pris dans la vie. Et pourtant, c'est le même apôtre Paul qui écrira ceci. « Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Alors, quand on pense à ce verset, on s'est dit oh, « Il ne veut pas se laisser prendre par le péché, par toutes sortes de choses, des faiblesses, etc. » Non, c'est pas seulement ça. C'est des choses qui sont tellement là, proches de nous, telles que ce que nous l'avons dit, l'impatience, quelquefois l'irritation, le mauvais caractère, etc. Alors il dit, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, entre autres ces choses. Et c'est un homme, il est positif parce qu'il réagit. Il réagit encore. Et plus les épreuves s'abattent sur sa vie, plus il réagit. Malgré l'incertitude de son avenir, l'apôtre garde la sérénité et sa joie et son secret. Eh bien, nous le livre, et je vais le répéter tout au long de notre méditation, il dit ceci, « J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. » Je ne veux pas faire un sondage ce matin, mais est-ce que vous êtes heureux de vivre ce que vous vivez aujourd'hui, ça va? Oh, mes amis, vous êtes en vacances, c'est bien. Il n'y a que moi qui travaille ce matin, vous vous rendez compte? Moi, je suis content d'être là quand même, hein, je vous le dis. Mais vous avez probablement, et je vais devenir un peu plus sérieux, mais vous avez certainement eu des soucis cette semaine. Des soucis qui sont liés peut-être à votre famille, qui sont liés à une situation professionnelle ou autre. Et en entendant ça, vous dites, oui, je veux être content de l'état dans lequel je me trouve. Vous voulez. Mais c'est pas aussi facile que ça, figurez-vous. Parce que finalement, c'est dans notre tête, c'est dans notre cœur, ça nous prend, dans nos affections, dans nos sentiments. Et on se dit, mais oui, je veux. Oh, ben, j'écoute la parole, c'est bien, c'est formidable. Mais entre ce raisonnement que nous avons de bonne volonté et puis la réalité qui va reprendre peut-être après le culte ou demain matin et puis dans la vie, vous allez voir que c'est pas aussi facile que ça. Et pourtant, Paul insiste, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Merci, Paul, de nous avoir donné des choses comme ça. Parce que je me prêche aussi à moi-même, naturellement. Il veut vivre. Il n'est pas suicidaire, Paul. Parce qu'il sait qu'il y a un ennemi qui veut sa peau. C'est l'adversaire. Et quand il arrive à entraîner un chrétien dans l'impatience, dans la négativité, dans la perte de sa joie, dans toutes sortes de murmures, toutes sortes de choses, lui, il se fait main parce que de toute façon, ce chrétien-là, il est hors course. Et puis, il va faire en sorte que ça se prolonge le plus longtemps possible parce que c'est tout son intérêt. Imaginez-vous Paul, il arrête son œuvre, il arrête l'œuvre, l'appel que Dieu lui a donné, puis pendant ce temps-là, il n'y a plus rien qui se fait. Et même en prison, il va rendre témoignage. Même en prison, il va encore être un homme d'une grande intensité spirituelle. Il y a des frères et des sœurs, quelquefois, qui sont un petit peu comme Élie. « Seigneur, je veux mourir. » Et vous avez remarqué, quand on dit ça, surprise, le Seigneur ne nous fait pas mourir. Il nous fait vivre. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ouais, Seigneur, j'en ai par-dessus la tête, je veux mourir. Alors, il veut mourir, Élie, et puis finalement, Il est en train de fuir Jézabel, il avait qu'à venir devant Jézabel. Elle lui aurait fait son affaire tout de suite, puis là il mourrait. Mais il se sauve quand même. Donc c'est très paradoxal à nos états quelquefois. C'est très paradoxal. Et il dit, j'ai appris. Le contentement d'esprit est une école divine. Eh oui. Seigneur, c'est dur parfois. C'est dur. Une école divine. Et je dirais que ce n'est pas inné, parce qu'il dit « j'ai appris ». Il dit pas « je connais depuis toujours ». Il a appris. Et comment a-t-il appris ? En passant par les épreuves. C'est comme ça qu'on apprend. Quelquefois, il m'est arrivé de rencontrer des enfants de Dieu et de dire « puisque je sers le Seigneur, il m'arrivera rien, il ne peut rien m'arriver ». Tiens, pro. Là, c'est vraiment pas connaître la Bible. Hein. Parce que justement, c'est précisément parce que nous sommes engagés et que nous aimons le Seigneur qu'il va y avoir toutes sortes de circonstances, et surtout ne pensons pas que Dieu est contre nous. Dieu est avec nous, mais dans l'épreuve. Et il va nous accompagner pour que nous en triomphions. Et à un moment donné, nous dirons aux autres qui passent par les mêmes situations par lesquelles nous sommes passés, nous dirons « j'ai appris ». J'ai appris. L'homme par nature est un éternel insatisfait. Peut-être que je m'avance un petit peu, non ? Insatiable. Jamais content. Et je crois qu'il y a une catégorie, il y a un caractère particulier parmi les hommes, ce sont les idéalistes qui souffrent le plus de cela. Parce qu'ils ont un idéal, et vous savez qu'on peut avoir un idéal évangélique. Mais bien sûr qu'on l'a, l'idéal évangélique. Mais il faut rester les pieds sur terre, mes frères. Parce que vous allez voir que c'est pas aussi simple que cela. Et je présume que ceux qui ont ce tempérament d'idéaliste un petit peu artiste, eh bien, vont souffrir davantage que les autres. Cet apprentissage réclame un effort. Il dit « j'ai appris ». Il réclame une discipline, une détermination de changer. « Seigneur, j'ai un tempérament à m'attrister, j'ai un tempérament à baisser facilement les bras, j'ai un tempérament à m'énerver, à m'impatienter. Eh bien, Seigneur, tu m'appelles dans cette école du contentement à changer. » Et je dis que c'est une œuvre surnaturelle. Dieu nous a pris tel que nous sommes, il nous connaît bien, hein. De toute façon, on n'a rien à lui dire. Tu sais, Seigneur, je suis comme ça. Le Seigneur va nous répondre, mais tu sais, c'est pas un problème, moi je te connais depuis toujours, hein. À changer. L'objectif de Dieu n'est pas tant de changer les circonstances que de nous changer au travers des circonstances. Nous aimerions que ce soit le contraire. Eh oui. Quelquefois on dit, Seigneur, mais je voudrais que cette situation, tu l'arrêtes. Je voudrais que ça soit autrement. Et quelquefois, d'une manière très silencieuse, mais toujours remplie de compassion, Dieu nous dit non. Les choses vont continuer, mais c'est toi qui vas changer à travers ça. C'est le grand message d'Habacuc. Jusque à quand, Seigneur? Habacuc. Et puis quand on lit la fin du livre d'Habacuc, il nous est dit, mais à ce moment-là, mais Dieu lui dit, mais rien ne changera. Mais toi, tu vas changer. Et à ce moment-là, le prophète comprend, dans un jaillissement du Saint-Esprit, que Dieu est avec lui, au cœur même des épreuves, alors que l'ennemi va fondre sur Israël pour tout détruire, l'Assyrien, le Babylonien. À ce moment-là, il dira, mais ma joie est dans le Seigneur. Il m'élève et mes pieds sont semblables à ceux des biches. Seigneur, ce sont des paroles extraordinaires, ça. Alors, mes frères et sœurs, ne vous fourvoyez pas. Si vous êtes dans des circonstances difficiles, peut-être que Dieu va pas changer les circonstances, mais il va vous changer. Et vous serez un autre homme, une autre femme. Et vous verrez que vous ne sortirez pas de l'épreuve comme vous y êtes rentré. C'est ça le challenge de Dieu, le défi du Seigneur. Apprendre à être content. J'ai eu mal là au bras il y a quelque temps. J'ai dit, Seigneur, faut que je sois content. J'ai passé mes vacances dans mon lit. Je dois être content. Non, mais c'est vrai que ça vous fait rire, mais moi je riais pas à ce moment-là. Ça faisait mal. Alors, mais remarquez, c'est vrai qu'on a passé de bonnes vacances. Parce qu'on est quand même dans une région super. Bon, je boitillais, je me promenais comme ça, mais j'avais pas les yeux qui étaient fermés. Et je dis, Seigneur, c'est vrai que la nature elle est belle, hein, c'est formidable. Bah, je me débrouillais comme je pouvais, hein. Mais c'est vrai que apprendre à être content, c'est apprendre à être heureux au présent. De dire, Seigneur, tu vas me guérir dans 15 jours, tu vas me guérir dans 1 mois, tu me guériras peut-être. Mais Seigneur, au moins, je ne veux pas vivre ce qui va se passer dans 15 jours, dans 1 mois, je veux vivre aujourd'hui. Seigneur, donne-moi de vivre pleinement ce qu'est l'instant. Afin de connaître les bienfaits du contentement d'esprit, il faut apprendre l'obéissance. À tenir notre âme en patience. Il faut apprendre la docilité, à combattre constamment cette incrédulité qui nous colle à la peau, parce que notre ennemi numéro un, c'est le doute. Et quand on est dans le doute, on est tantôt au sommet et tantôt à la, enfin, au grenier et à la cave. Vous connaissez le principe. Vous savez que ça a été le drame constant d'Israël. Au désert, il nous est dit qu'ils murmurèrent. Et pourtant, ils étaient sortis d'Égypte. C'était pas n'importe quoi, quand même. Les murmures. Ils ont été mécontents contre Dieu, contre Moïse. Parce que quand ils sont arrivés à Mara, ils ont trouvé de l'eau amère. Et ils ont dit, c'est pas buvable. Ensuite, c'était la nourriture. Seigneur, tu nous donnes de la manne, mais on en a par-dessus la tête de manger de la manne. Dieu leur a dit, je vais vous envoyer des cailles. Mais là, ça leur a sorti par les yeux et par le nez. Parce qu'ils en avaient tellement que... Eh oui, parce que quand on veut, Dieu va nous donner. Mais pour nous dégoûter de nos exigences et de nos impatiences. Et ils diront un peu plus loin, nous ne pouvons nous passer de viande, nous ne pouvons pas attendre que Moïse redescende de la montagne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? Ils ont fait un veau d'or. Vous voyez? Ça, c'est la nature la plus belle de l'homme qui ressort à travers les épreuves. Ils avaient Dieu, ils n'avaient pas besoin de Moïse. Mais ils n'ont pas pu attendre. L'esprit de mécontentement nous ferme les yeux, même sur le miraculeux permanent. Et dans le désert, les Hébreux avaient du miraculeux permanent, mais au bout d'un certain temps, ils ne s'en apercevaient plus. Je dis que l'Église de Jésus-Christ vit dans le miraculeux aussi. Mais nous ne savons plus voir les choses. On s'est un peu appesanti. Un mécontent aura toujours sujet de se plaindre de tout et de rien. C'est un état d'esprit que le Seigneur veut changer. Ouais. Il y a des gens qui disent, ben voilà, moi, ça me va pas. C'est ceci, c'est cela. Je me plains de mes frères et de mes sœurs. Je me plains de mon mari et de ma femme. Je me plains de mes enfants. Je me plains de mon patron. Mais ça, c'est une vieille histoire. Le patron, il en a toujours. Je me plains de mes collègues de travail. Je me plains de ceci et cela, etc., etc. C'est un état d'esprit et Dieu veut que nous ayons un autre état d'esprit. Parce que nous allons vivre heureux. Parce qu'on ne peut pas être heureux quand on est comme ça. À l'inverse, le contentement procure le repos. On comprend pourquoi dans ces dispositions d'amertume, Israël ne soit jamais entré dans le repos ou soit rentré tardivement dans le repos. Dieu leur dit, après 2 ans dans le désert, allez vous mettre à la frontière du pays de Canaan. Ils font des investigations, ils disent c'est un pays magnifique, c'est un pays extraordinaire que Dieu nous donne. Et puis après ils disent tout de suite, ah ben il y a des géants, il y a des montagnes, il y a des forteresses, etc. Et puis là ils se révoltent contre Dieu et Dieu leur dit, ben écoutez, 2 ans de vacances dans le désert, moi je vous en mets 38 de plus si vous voulez. Et c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui tournent en rond, on se dit mais pourquoi ils n'avancent pas? Pourquoi leur vie spirituelle n'arrive pas à décoller? Pourquoi ils sont là, eh bien là, à s'enliser dans les sables mouvants? Parce que quelquefois, il y a un état d'esprit qui n'est pas bon. Dans la servitude de l'Égypte, la parole de Dieu nous dit, ils gémirent. Dans le désert, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils murmurèrent. Dans le pays de la promesse, ils se révoltèrent. La conséquence, c'est qu'ils ont tourné 40 ans en rond, et puis après, c'était Babylone. Ensuite, c'était la dispersion, et ça l'est encore pour une certaine partie d'Israël. La diaspora, elle existe encore aujourd'hui. Dieu va leur donner un guide, il s'appelle Moïse. Eh bien, ils se plaignent de lui. Il va leur donner des rois. Ils vont s'égarer avec leur roi. Ensuite, il va leur donner un messie. Ils le crucifient. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est terrible, hein? À chaque fois, Dieu donne et les hommes sont jamais contents. C'est le problème. C'est ça, justement, la grande difficulté. Et Paul nous dit, j'ai appris à être content. Eh oui. J'ai appris à être satisfait de l'état dans lequel je me trouve. Je crois que je l'ai déjà dit un petit peu, mais vous allez le retrouver. Moi, j'aime bien les proverbes, vous savez. C'est bien les proverbes. Ah, ça éclaire tout à fait particulièrement. Il y a un proverbe chinois qui dit ceci. Vous allez vous en souvenir parce que je crois que je l'ai déjà donné à Saint-Nazaire. J'étais furieux de ne pas avoir de souliers. Alors, j'ai rencontré un homme qui n'avait pas de pieds. Et je me suis trouvé content de mon sort. C'est une petite lumière comme ça, et ça veut dire ce que ça veut dire. Ah oui, Nous sommes trop souvent rivés à ceci et cela comme objectif que nous nous sommes donnés. Et quand on est au-deçà de l'objectif, alors à ce moment-là, on est décontenancé, parce que c'est pas Dieu qui nous a fixé cet objectif, c'est nous qui nous sommes fixés. Et forcément, quand on n'a pas la notion de la vie de l'esprit, alors automatiquement, bien nous sommes automatiquement là portés par la chair et nous serons forcément déçus, c'est clair. Déçus de ce qui nous manque et hélas, rarement satisfaits de ce que nous avons. Vous savez, les enfants, vous l'avez remarqué, moi j'ai des petits-enfants. Ce sont des petites canailles, c'est normal. Et quand il y a un cadeau qui est fait à l'un pour son anniversaire, bah vous avez tout de suite l'autre, c'est la guerre. Hein. Alors c'est terrible comme ça. Voilà. Mais ça, c'est le problème de l'enfance. Hein. Mais vous savez, les hommes, ils sont aussi quelquefois des grands-enfants. Hein. De toujours convoiter, de toujours « moi je veux, ceci, cela, etc. » Sachons considérer le privilège d'avoir Dieu pour Père, premièrement. De ce qu'il nous donne chaque jour, et il nous donne par-dessus tout son amour, sa bonté, sa fidélité. Considérons ce qu'il est, ce qu'il veut et ce qu'il peut pour nous, parce qu'il peut tout. Eh oui, quand on fait le compte de tout ça, eh bien, on peut chanter ce vieux cantique, vous savez, hein. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras. En adorant, et non pas en maugréant, combien le nombre en est grand. Dans le livre des Proverbes, il est dit ceci, au chapitre 15, verset 16, « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. » Ah oui, c'est ce qu'il dit. Hein. « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. » Dans le chapitre 4 de Philippiens, nous avons un titre à donner, c'est l'hymne à la joie, au cœur même de la douleur et de la souffrance. Et Paul va le dire d'une manière admirable, et c'est certainement le verset clé de tout cet épître. Il dit ceci, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous !» Nos louanges ce matin, devraient être, enfin, elles le sont, mais avec une intensité supérieure. Mais de dire, « Seigneur, nous t'adorons tous ensemble, nous sommes heureux de t'appartenir. » Tu nous as sauvés, tu as fait de grandes choses et tu continues à en faire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, vivre content, c'est avoir le repos et la paix du cœur à l'égard de nos problèmes. La solution, et ça vous l'entendez souvent dans l'évangélisation et ça sert aussi aux enfants de Dieu, c'est faire passer nos difficultés de nos mains dans celle du Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dira ceci, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même vous abandonne. » Quelques réactions. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » De faire passer mes problèmes qui m'obsèdent, qui me tourmentent, qui me rendent malade, et c'est vrai. Et de dire, « Eh bien, Seigneur, mes problèmes maintenant, c'est toi qui as le dossier, c'est toi qui es l'avocat, c'est toi qui vas plaider pour moi. Moi, en attendant, eh bien, je me reposais sur toi. Sur toi, je me repose. Vous connaissez, hein? Je me repose en toutes choses. Alors, vous savez qu'on vit beaucoup mieux quand c'est comme ça. Hein? Beaucoup, beaucoup mieux. Abandon égale soulagement et soulagement égale contentement. C'est le seul moyen de trouver, de conserver en toute situation l'équilibre de notre âme. À notre âme. Qu'est-ce qu'elle est flottante? Ouais. Parce que notre âme, elle est entre notre corps qui demande, qui a des appétits, qui a des stimuli, et puis notre esprit, normalement, qui est en Dieu. Et elle est au milieu. Et elle est souvent instable. Elle est tirée vers le bas. Quelquefois, elle est aspirée vers le haut, mais elle est souvent vers le bas. Hein. Et on est malheureux avec ça. Hein. C'est pour ça que Paul prêche, et tout le Nouveau Testament prêche, l'équilibre de la vie spirituelle. L'équilibre de l'âme. Fini les agitations, fini les anxiétés, les craintes folles de perdre ou de ne pouvoir jamais avoir. Seigneur, tu sais, j'ai peur de perdre. Eh bien, vous savez, il faut perdre pour avoir. Et vous le savez, parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Et c'est le sacrifice qui nous fait avancer. Vous laissez tout derrière vous et après, Dieu va vous redonner tout, mais d'une autre manière. Vous n'avez jamais fait l'expérience ? Moi, je vous encourage, non pas à la faire, parce que c'est pas vous qui allez choisir, c'est le Seigneur. Mais en tous les cas, de ne pas résister au Seigneur lorsqu'il nous emmène sur des chemins, quelquefois qui nous sont étranges ou étrangers. Et nous dit maintenant, viens, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Et Seigneur, on dit je te suis, mais alors on cramponne. C'est comme si on avait du collant double face sous les chaussures. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on a peur. Parce qu'on a des craintes. Et de dire, eh bien, j'aurai jamais cela. Et quand je regarde l'autre qui a, je me dis, mais c'est pas vrai, mais Seigneur fait du favoritisme. Qui génère des plaintes, des frustrations, des révoltes, de l'amertume, de l'aigreur et des critiques. Dans 1 Timothée, il est dit ceci, en effet, c'est une source, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ouais. Avec le contentement. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve, dit Paul. Paul, redis-le-moi. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Or, l'état de Paul était la captivité. Être heureux quand tout va bien, on dit merci au Seigneur. Et vous savez, j'ai remarqué dans les églises, c'est qu'il y a des moments où les choses vont bien dans les églises ou dans nos vies. Et ce qui est attristant, c'est qu'on ne dit même pas merci au Seigneur. Ouais. On est gâté quand même, hein. Ça, c'est dommage. Les louanges dans nos milieux devraient être mais des explosions de joie. Ouais. On devrait aller plus loin, en tous les cas. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Mais ça devrait aller encore plus fort. Et te dire, mais Seigneur, tout en restant naturellement dans le respect des autres. Hein, il n'est pas question de marcher au plafond. Hein. Mais, non, parce que... faut pas tomber dans le mysticisme et dans l'illuminisme. Mais, de toute façon, Seigneur est là pour y veiller. Mais toujours est-il que, néanmoins, on devrait, quand tout va bien, mais de dire, mais Seigneur, merci pour ta grâce. Mais quand tout va mal, est-ce qu'on a encore envie de dire merci? Et, étonnamment, j'ai vu des frères et des sœurs qui, quand ça allait bien, ne disaient rien, ne louaient jamais. Et parfois, dans des moments de difficulté, à ce moment-là, se rapprocher du Seigneur et déverser une source et un jaillissement d'espérance, de foi et de louange. Est-ce qu'il faut attendre ça? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir perdu ceci, d'avoir perdu cela, d'être dans une situation de difficulté? On devrait le faire en tout temps. D'ailleurs, il est dit, prier sans cesse, mais rendez grâce sans cesse au Seigneur. C'est une bonne habitude. Alors, quand tout va mal, la prison pour Paul et nos prisons pour nous. Alors, certes, elles sont sans barreaux. Ce ne sont pas des portes de fer, mais ce sont des prisons quand même. Certains sont vraiment en prison. Paul parlera d'une écharde qui le fait souffrir et dont il ne verra jamais la solution. Vous connaissez l'histoire. Beaucoup ont expérimenté l'enfermement pour devenir des grands hommes de Dieu. Joseph a été enfermé dans la prison pendant 13 ans. C'est pas une paille pour un adolescent. Là, on a vraiment le sentiment de perdre sa vie. Jean-Baptiste, il est rentré dans la prison et n'a jamais sorti. Vous avez également l'histoire de Pierre. Lui aussi, ça n'a pas duré longtemps. Il a vu le miracle. Mais vous avez également Jérémie, parce que Jérémie, toute la vie du prophète, a été une vie de persécuté. Vous connaissez, hein, quand on l'a descendu dans la fosse, on l'a oublié, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dans le livre des Lamentations, prenons l'exemple de Jérémie, il y dit ceci au chapitre 3, verset 7. Ce sont des paroles pathétiques, hein. Moi quand je les lis, ça me fait quelque chose. « Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. » C'est Jérémie qui dit ça. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Quelquefois, nous avons eu le sentiment, dans des moments de difficulté, de souffrance physique, morale ou spirituelle, que quelquefois le ciel ne répondait plus. Et nous pouvons dire comme Jérémie, « Mais tu as mis de puissantes chaînes sur moi. J'ai crié, j'ai pleuré, et tu n'as pas laissé accès à ma prière. » Qui ne connaît pas ce sentiment lancinant, douloureux, d'être captif de quelque chose, si ce n'est pas de quelqu'un, un dominateur quelconque dans notre vie, et de souffrir de cette situation, de souffrir alors dans le sens contraire d'un manque de quelqu'un ou d'un manque de quelque chose, et de dire, mais Seigneur, tu sais, ma vie serait tout autre si j'avais ceci, si j'étais cela. Eh oui, ça c'est ce que nous pensons. Mais si peut-être nous l'avons au fond du cœur, c'est que Dieu l'y a mis. Il ne va peut-être pas nous le donner tout de suite. Il veut nous préparer à gérer ensuite la réception du don pour que nous le dilapidions pas, que nous le piétinions pas après avoir pleuré. Regardez les Hébreux. Ils ont pleuré pour avoir des choses et après ils les ont méprisées. c'est une offense que nous faisons à Dieu. Certainement. Des prisons de la vie des hommes d'aujourd'hui, que peut constituer la maladie, le chômage. On a eu des frères qui ont été pendant des années dans le chômage. Dans toutes ces années de ministère, on a suivi des frères qui étaient en chômage. Mais je peux vous dire aujourd'hui, ici et ailleurs, ces frères ne sont jamais restés au chômage. Ils ont même eu des situations encore meilleures après. L'expérience nous a montré que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et pourtant, nous les avons vus pleurer. Nous les avons vus soupirer. Certains en sont restés 2 ans, 3 ans au chômage. Rien du tout jusqu'au jour où la porte s'est ouverte. Et là, le miracle s'est fait. Avec une situation qui était meilleure que précédemment. Allez comprendre ça, mes frères. Faut le vivre, hein. Ce peut être des difficultés matérielles. Mais tout dépend comment on gère l'argent aussi, hein. Et là, Dieu aussi nous apprendra à gérer notre argent, parce que c'est pas le nôtre, c'est le sien. Et puis, les tentations. Peut-être certains, c'est un célibat forcé, en disant, mais moi, j'attends l'âme sœur. Je voudrais fonder une foyer, et c'est tout à fait normal et naturel. Mais on attend. Et cet être qui ne vient pas, qui se fait attendre, alors sans lui, ou sans elle, nous croyons que nous ne pouvons être pleinement heureux. Et on se dit continuellement, et on ressasse continuellement, mais si j'avais, si j'étais, quand j'aurais ? Eh bien ça, c'est un raisonnement qu'il faut placer devant Dieu, en disant, Seigneur, je suis. Et puis tu me donnes la grâce qui est nécessaire pour aujourd'hui. Parce que plus on crispe, plus on retarde l'échéance, plus on est souple et plus on s'abandonne, en d'autres termes, plus vous avez la foi, plus les choses vont venir. Quand Jésus nous parle des petits-enfants qui reçoivent facilement, c'est parce qu'il y a des raisons, hein. Mais on est dans un monde compliqué aussi, hein. Le raisonnement, hein, c'est terrible. Alors, si l'on ne peut être heureux sans, comment affirmer qu'on en sera heureux avec ? Moi, j'ai vu des jeunes filles qui ont pleuré toutes les larmes de leur corps, et qui disaient, mais Seigneur, je veux un mari, je veux un mari, je veux un mari. Ça, on l'a eu. Puis le mari est venu. Et puis c'était pas le prince charmant, forcément, parce que bon, faut pas non plus exagérer, il n'y a pas d'homme parfait, mesdames, hein, vous le savez, hein. Vous savez quelque chose. Alors, il est venu, et puis après, elles ont commencé à les chanter en disant, ah, le mariage, je croyais que c'était pas comme ça. Ah, bah oui. Ben oui, après, il faut faire des efforts, hein. Il faut continuer à faire des efforts pour s'aimer. Il faut faire des efforts pour tuer l'égoïsme, tuer l'impatience, et puis nos petites manières, nos vieilles habitudes, etc., etc., parce qu'on vit plus tout seul, on vit à deux. Alors après, ça devient encore plus compliqué. Ah, si j'avais su, si j'étais resté célibataire. Eh ouais. Alors il y en a qui pensent comme ça, et puis qui disent, ben moi je veux divorcer. Parce que quand j'aurai divorcé, je vais trouver, oh, magnifique, extraordinaire. Et puis la vie, c'est aussi la routine, on recommence. Alors il a peut-être pas le même caractère que le premier, mais il a aussi son caractère. Et on se dit, si j'avais su. Alors vous savez, on peut aller comme ça très très loin. Il faut apprendre à vivre sans, et il faut apprendre aussi avec, d'une manière ou d'une autre. Le rêve de tout prisonnier, c'est de s'évader. Enfin, moi, j'ai jamais été en prison. Hein. C'est une fois. Si. Je vous l'avais dit, hein, dans mon témoignage. Une nuit en Angleterre. Ah oui, à la Tour de Londres. Non, à l'aéroport de Londres. Pas la Tour de Londres. Mais toujours est-il que... Ouais, je peux dire, hein. Mais bon, c'était des problèmes de papier. Toujours est-il que tout rêve de prisonnier, c'est de s'enfuir. Je m'évaderai. Mais vous savez qu'on l'a dit avant, dans la Bible. C'est David qui dit ceci, « Ah, si j'avais les ailes de la colombe, je me porterais au désert et je serais tranquille. » Alors, il y a des gens qui se disent, « Moi, je suis seul. » Ils veulent aller au désert, ils vont être encore 2 fois plus seuls. Hein. Vous savez, c'est difficile la vie. Hein. Enfin non, c'est pas la vie qui est difficile. C'est nous qui la rendons quelquefois compliquée. Est-ce bien la solution de fuir la réalité de l'existence ? Ouais. Pourtant, il est certains états dans lesquels Dieu permet que nous demeurions où, écoutez bien, je vais vous faire bondir, où il n'y a rien à faire, où vous n'aurez rien à faire. Vous restez là, vous restez tranquille, et plus vous restez tranquille, plus les choses iront vite, plus vous allez vous agiter, plus ça va faire mal. Il y a des fois, Dieu nous dit, eh bien voilà, tu es là, mais tu n'as rien à faire. Tu me fais confiance. Tu restes tranquille. Quelquefois, je m'imagine que le Seigneur est obligé de nous prendre et puis de nous fister sur une chaise en disant « Bouge plus, hein !» Mais oui, parce que si nous bougeons pas physiquement, nous bougeons avec notre langue. Et nous disons et nous transportons quelquefois des messages qui sont des messages négatifs vis-à-vis des autres. Eh oui, c'est difficile. Rien à faire, Seigneur. Je dois rester tranquille. Et c'est le plus difficile de rester tranquille quand vous avez un monde autour de vous qui, tourbillonne frénétiquement. Et que l'on vous dit, même quelquefois dans des prédications, tu devrais faire ceci, tu devrais faire ça et cela, etc., etc. C'est pas la foi. La foi, c'est de faire confiance au Seigneur et de rester tranquille. Vous avez compris? Ouais, on l'apprend. Hein. Attendre volontairement, malgré tout, le secours qui ne manquera pas de venir. Et qu'est-ce que fait Paul en attendant que ça se passe? Et en attendant que la porte de la prison s'ouvre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait une chose, il apprend. Il apprend tout simplement. Il dit, j'ai appris à être content. Rien à faire. C'est l'école de l'obéissance. Il vaut mieux vivre de bonne grâce que de se morfondre, frères et sœurs. Trop d'enfants de Dieu se morfondent dans nos églises. Ils ne peuvent plus chanter de cantiques. Ils ne peuvent plus prier. Ils ne peuvent plus louer le Seigneur. Ils ne peuvent plus faire de prospection. Ils ne veulent plus aller sortir dans les rues pour chanter parce que ils se morfondent. La sinistrose. Et j'ai pas de médicament pour ça. Si j'en ai un. Venez donc écouter l'évangile. Vous allez voir, ça fait du bien. Parce que j'ai vu qu'il y a des frères et des sœurs qui sont venus quelquefois dans des états complètement décomposés intérieurement. Ils ont entendu un message qui n'était pas préparé par le pasteur, mais qui était préparé par le Seigneur. Ils sont venus, ils ont entendu le message, ils sont repartis en chantant des cantiques. Venez aux réunions de prière. On est fatigué le mardi soir ou le mercredi soir quand il y a des réunions de prière, parce qu'on a une journée, surtout avec les temps de chaleur. Mais on ressort toujours vitalisé. J'en ai pour preuve que la conversation après la réunion de prière entre vous dure plus longtemps que la réunion. Donc vous n'êtes pas fatigué. Non, vous m'en voulez pas quand même, hein. C'est vrai, j'entends, c'est vrai, parce que c'est moi qui ferme les portes. Alors, non, mais vous me connaissez un petit peu maintenant, hein, ça va. Ça fait 2 ans que je suis avec vous, hein. Vous allez dire, dites donc, hein. Oh là là, on va l'avoir pour combien de temps encore. J'ai appris à être content au milieu de vous, mes frères et sœurs. Ah oui. Dans 1 Pierre au chapitre 4, il est dit ceci, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien, pas mal. » En faisant ce qui est bien. Certains états pénibles à vivre forcent notre interrogation pourquoi. Dieu se sert de certaines conditions comme des instruments sortent, selon la pensée de Jésus dans Jean chapitre 15, de sécateurs divins, c'est sa coupe, hein, qui viennent émonder notre vie pour nous former, pour nous façonner, pour nous modeler et pour nous purifier. Aujourd'hui, dans les églises évangéliques, il y a un slogan, formation, formation, formation. Excusez-moi. C'est pas ça la formation. C'est pas parce que nous allons avoir une connaissance livresque avec des bouquins qui viennent de ci ou de là. C'est pas comme ça qu'on est formé. On est formé à l'école du Saint-Esprit. Alors les formateurs qui soient d'abord formés, excusez-moi, hein, je m'en prends à ça parce que quelquefois, c'est pas de la formation, c'est de la déformation. La vraie formation, c'est à l'école du Saint-Esprit. C'est au cœur même de cette communion avec le Seigneur, dans les circonstances de la vie. Jésus a appris les choses. Il nous a dit l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça, c'est la parole. À chacun son traitement. Dieu nous fait tous passer par le même chemin. À Jacob, il a fallu un Laban. Vous connaissez l'histoire, hein, c'est assez truculent. À Moïse, il a fallu le désert. À Abraham, il a fallu un Isaac. À David, il a fallu un Saül. Et ils en ont vu, hein. Soit dans la patience, ou d'une manière ou d'une autre, dans les caractères, etc. Et Dieu maintient la pression jusqu'à ce que le résultat soit positif. Parce que vous savez, le creuset, nous dit la parole de Dieu, anoblit le caractère chrétien qui est en nous. Pas le caractère naturel. Mais le caractère chrétien doit ressortir à l'image de Christ. Et puis, nous devons apprendre à vivre et à dépendre de Dieu seul. Et ça, c'est une acceptation du cœur. C'est pas la tête qui dit « je veux » et le cœur qui dit « non, tu fais autre chose ». Nous avons à apprendre à nous dépolariser nous-mêmes de nos problèmes. C'est notre ego qui doit être touché à ce moment-là. Nous devons changer parfois de perspective. Dans nos églises, nous avons des traditions qui sont des traditions d'hommes et qui ne sont pas des conduites du Saint-Esprit. Eh bien, il faut changer. Qu'est-ce que vous voulez, le Seigneur ? Eh bien, va nous faire changer, parce que si nous voulons voir l'Église vivre, eh bien là, il va falloir peut-être remettre des choses en cause. Mais pas du haut de l'estrade par le pasteur en disant « vous voulez faire ceci et cela ». Non, c'est pas moi qui vais le faire, c'est le Seigneur qui va le faire. Dans la mesure où nous laissons Dieu agir. Et là, il faut changer de perspective. Nous allons passer du rêve à la réalité. Mais la réalité qui est celle de Dieu, pour sortir de parfois de nos illusions. La deuxième interrogation qui surgit, c'est jusque à quand tout ça ? Une épreuve, quand elle est courte, on se dit « bon, c'est bien, mais quelquefois ça dure ?» Certains états nous laissent un goût amer de perdre un temps précieux. On s'est dit « mais Seigneur, ça fait 5 ans que tu me fais attendre, et je vieillis !» Bah oui, qui c'est qui s'est arrêté de vieillir ? De toute façon, même quand on freine des deux pieds, hein, ça se voit là. Il paraît que ça, c'est comme ça, ici. Ça commence là, et puis après ça monte. Ça vous monte à la tête à la fin. Hey. Alors, nous voyons que nous avons ce sentiment qui nous aide, qui nous amène à quelquefois nous irriter. Pensons que Paul a séjourné 2 années de prison à Césarée. Puis ensuite, il a eu 2 années à Rome de prison. Et puis, de nombreuses détentions dans d'autres endroits, parce qu'il ne nous est pas tout dit. Hein. Apparemment, que de temps perdu pour Paul. Se disait, mais Seigneur, tu m'as appelé sur le chemin de Damas, un travail, tu m'as appelé à conquérir le monde, et moi, je pourris dans une prison. Qu'est-ce que je fais là ? Mais, en réalité, a-t-il vraiment perdu son temps, Paul ? Non seulement il a appris à être content, mais plus que ça, c'est ce qu'il a fait ? Il a demandé du papyrus, il a demandé une plume, de l'encre, et 13 épîtres. Sont sortis de cette condition. Enfin, 13, excusez-moi. Voilà. 13 épîtres. Il les a écrits où ? Tranquille, au frais, à l'ombre, en prison. Reste la grande question. Comment ? Comment nous accommoder d'une situation difficile tout en gardant notre paix et notre joie intérieure ? Ou comment trouver le moyen de rester positif ? Je suis content de l'état dans lequel je me trouve. Parce que le verset 13 nous dit ceci, et je vous livre la solution, mes frères et sœurs. Il dit ceci, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » En venant dans la communion fraternelle, vous trouverez des frères et des sœurs qui vont vous encourager, qui vont vous faire du bien. Vous pouvez avoir contact avec les anciens, avec le pasteur. Mais attendez, il ne faut pas compter là-dessus. Il n'y en a qu'un qui peut vous faire le plus grand bien, et un bien durable. C'est le Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Merci Seigneur, c'est formidable. Parce que, vous savez, il va peut-être arriver des temps, on n'aura peut-être plus d'église, il n'y aura peut-être plus de pasteur, il n'y aura peut-être plus grand-chose, comme c'est arrivé dans l'histoire du christianisme. Il y aura quelqu'un qui restera. Ce sera le Seigneur. Développons notre vie et notre communion avec le Seigneur, notre relation avec lui, parce que c'est celle qui restera. À la fin de notre vie, nous aurons peut-être plus notre épouse, notre mari, nos enfants autour de nous, mais il y aura un qui restera, c'est le Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Par Jésus, je puis surmonter l'amertume, je puis surmonter les frustrations par ma foi, précisément en Jésus je triomphe de l'apitoiement sur moi-même et des gémissements. Faire confiance en sa sagesse. Seigneur, je ne sais pas, mais toi tu sais, ça me suffit. Sa sagesse, pas la mienne. Parce que je sais qu'une chose, c'est que Dieu désire mon bien suprême. Le meilleur pour moi. À défaut d'une solution définitive, accepter les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire vivre avec, en comptant sur sa force. Et je peux dire à ce moment-là, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, parce que j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. On termine par une petite histoire ? Non ? Je peux la repasser la semaine prochaine, si vous voulez. Écoutez bien. Tout va bien. C'est le titre. Tout va bien, j'allais dire, comme la chanson. Il y avait un pauvre paysan, je ne sais pas à quelle époque, mais qui n'avait qu'un cheval. un homme de la terre, un homme qui finalement était quelque part juste à la limite de l'indigence. Il avait qu'un cheval et il vivait seul avec son fils dans une petite ferme là, dans la campagne. Mais cet homme avait quelque chose. Il était chrétien. Très pauvre sur le plan des choses de la vie, mais très riche parce qu'il était chrétien. Et il priait continuellement pour chercher la volonté de Dieu. Et il faisait rien sans dire, eh bien Seigneur, conduis-moi, guide-moi, qu'est-ce que tu penses de ceci, qu'est-ce que tu penses de cela? Peut-être pouvait-il dire au Seigneur, parce que c'était certainement infidèle, il devait dire, mais j'ai appris Seigneur à être content avec mon cheval et mon fils et ma petite baraque. J'ai pas grand-chose, mais j'ai appris à être content. Et puis un beau jour, son cheval, son unique cheval, s'est échappé. Alors à ce moment-là, les voisins, quand ils ont appris que le cheval était parti, ils sont venus frapper à sa porte et ils sont venus consternés lui dire « Quelle malchance ! Oh, quelle malchance ! Tu es si pauvre ! Tu te rends compte, tu as perdu ton cheval ! Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Qu'est-ce que tu vas devenir ?» Et voilà que le paysan répond à ses voisins « Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une malchance ? Hein ? Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est une malchance ? » Et puis voilà, quelques jours sont passés, et le cheval est revenu, parce que c'est pas bête un cheval, hein. Le cheval est revenu en compagnie de 12 chevaux sauvages. Oh, formidable. Hey, n'allez quand même pas chercher des tickets tac au tac et grattage et tirage, hein, parce que moi je décline toute responsabilité de ce que vous entendez, hein. C'est une histoire. 12 chevaux viennent suivre le premier, tout le monde rentre là dans la maison, enfin dans la maison, dans l'écurie, enfin l'écurie. Et voilà que cet homme, il possède 13 chevaux. Voilà, gros cylindré, hein, vous devinez. Ses voisins l'apprennent et ils viennent le voir en lui disant ceci, parce que vous savez, vous avez remarqué le caractère des gens. Bon, je retourne ma veste et ceci et cela. On va bientôt en entendre parler. 2007, vous allez voir, ça va pas être triste. Et il vient lui dire, en voilà une chance. Tu es riche, tu as 13 chevaux. Mais quelle chance tu as. Le fermier, et tiens, et répond aussitôt, mais quand savez-vous si c'est de la chance? Ah non, mais vous connaissez l'histoire, non? Ah, les angevins, ils connaissent peut-être, hein. Non, bah tiens, ils vont déjà oublier. Alors, puis quelques semaines s'écoulent, et le fils est frappé par l'un des chevaux sauvages qu'il était en train de dresser, et sa jambe est brisée. Les voisins reviennent. Bah oui, vous savez, quand on a de bons voisins, ils viennent vous dire des choses, les voisins, c'est extraordinaire. Les voisins reviennent et dirent alors, ah, quel malheur! Quel malheur! Le vieux paysan, tout simplement, leur répond à nouveau. Ah, mais qui sait si c'est un malheur? Qui sait si c'est un drame? Et puis, quelques temps sont passés, et la guerre a éclaté. Et à ce moment-là, les officiers, les soldats sont venus au village recruter tous les jeunes valides pour aller au combat. Et il y en a très peu qui sont revenus. Très peu. Revinrent de la guerre. Le fils du paysan a ainsi échappé à la mort grâce à son infirmité. Et la leçon, écoutez bien, chance ou malchance, ce qui vous arrive aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, c'est une grâce ou une catastrophe? Ah non, mais attendez, il ne faut pas répondre avant, hein. Oh là là, il faut attendre que... Moi, j'ai rien dit, hein. Chance ou malchance? Quelquefois, on se dit, oh Seigneur, c'est une catastrophe. Et le Seigneur nous dit, mais attendons un peu, tu vas voir comment ça va se passer. Chance ou malchance? Hasard, fatalité. Pour les croyants, pour les enfants de Dieu, les bonnes ou les mauvaises circonstances servent toujours à notre bien, même si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Nous sommes renfermés dans une vie, Seigneur, où nous ne voyons qu'un aspect des choses. Nous avons une vision, Seigneur, qui est une vision, Seigneur, à l'horizontale, mais pas à la verticale. Nous pouvons analyser les choses en fonction de ce que nous les ressentons, mais toi, tu nous appelles à ne pas vivre en ressentant, tu nous appelles à vivre en croyant. Et je te demande de visiter mes frères et mes sœurs, avec parfois une éducation même chrétienne, qui a été basée sur le sentiment, qui a été basée sur le ressenti, sur les impressions, sur toutes sortes de choses, et aujourd'hui tu veux nous dire que ce n'est pas la vraie vie chrétienne, parce que la foi, c'est de croire ce qu'on ne voit pas. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et Paul avait là l'obscurité d'un cachot. Il avait une porte fermée. Il avait une fenêtre qui était là, chargée de barreaux. Alors il ne pouvait pas voir ce qui se passait derrière. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'était pas les murs, c'était pas l'obscurité, c'était pas la prison qui le privait de voir, parce qu'il avait une autre vue. Il voyait par le haut. Il voyait à travers toi. Et il voyait déjà, qu'il y avait là des choses glorieuses qui allaient se passer. Et il peut nous dire aujourd'hui, il peut te dire, mon frère, ma sœur, que tu dois apprendre à être content de l'état dans lequel tu te trouves. Garde la foi. Garde et maintiens ta confiance dans le Seigneur. Il te fera voir des choses que tu ne vois pas aujourd'hui. Parce que souvent le miraculeux nous accompagne. Il nous côtoie et finalement nous n'avons pas Dieu pour le voir. Tu bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs. Tu bénis nos amis qui nous ont rejoints. Tu bénis, Seigneur, en effet, cette œuvre. Et toutes les œuvres, Seigneur, où la parole de Dieu est prêchée, dans cette conception qui nous amène à vivre de plus en plus par la foi et de moins en moins par la vue. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen.